tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut Tyran.
Alors bon, désolé mon cher Herman, tu n'auras pas l'équipe du podcast au complet cette semaine. On aurait bien voulu, hein, mais bon, entre Monsieur Morren qui fait tous les festivals de l'été, ce cher Ben qui s'occupe de sa petite maisonnette, et bien, si vous voulez, pour réunir tout le monde, c'est un petit peu compliqué. Bon, surtout qu'en plus, on va pas se mentir, hein, c'est un peu l'été, quoi. On va dire que le 3 étant terminé, la queue va petit à petit diminuer, quoi, et il n'y a pas forcément d'être besoin de plus de 2 pour faire des podcasts, mais vous allez voir, il y a quand même des petites choses. Alors, au sommaire de l'actualité, nous vous parlerons cette semaine de la catastrophe Batman Arkham Knight sur PC. Du côté de chez Sony, on évoquera Horizon qui veut éviter les tutos, et ça c'est une bonne nouvelle.
Enfin, pas vraiment les éviter, plutôt les limiter.
Ouais, il faut pas rêver non plus. Toujours chez Sony, un petit dérapage diplomatique de Fumito Ueda, qui, on va dire, a un peu contredit son patron en live, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Puis nous enchaînerons ensuite chez Apple, qui craque complètement du slip et fait interdire des jeux sur son store pour un Wii ou pour un merde. On enchaînera ensuite sur Fire Emblem, Nintendo qui a bien changé, n'est-ce pas? Qui a beaucoup changé même. Et enfin, nous terminerons par un petit point sur le père Shenmue, sur le Kickstarter de l'impossible, qui visiblement ne donnera un jeu potable que s'il arrive à 10 millions de dollars, mais enfin bref, on va dire que c'est assez compliqué, hein.
Un peu.
Bon, allez, on commence donc avec Batman Arkham Knight sur PC. Contrairement à Assassin's Creed Unity qui était une catastrophe sur à peu près toutes les plateformes existantes, le nouveau Batman Arkham Knight est une catastrophe, mais sur une seule plateforme, le PC. Le portage n'a pas été assuré par le studio d'origine. Il a été confié à un studio tiers qui, à mon avis, en plus, ne devait pas avoir beaucoup de moyens. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, pour un jeu qui est censé être optimisé pour les cartes Nvidia, c'est une catastrophe sur les cartes Nvidia. C'est-à-dire que il y a des chutes de framerate de l'impossible, même sur des cartes haut de gamme. Enfin, moi, par exemple, j'ai une GTX 970. Je sais que je ne pourrais pas faire tourner le jeu correctement. Alors que c'est quand même une carte qui coûte 300 boules, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer sur AMD ce que ça donne. Donc voilà, c'est une véritable catastrophe. Le jeu tourne comme de la pisse sur un PC. Des vidéos ont tourné sur Internet. Maintenant qu'il y a un système de remboursement sur Steam, ben les gens commencent à se faire rembourser. Et donc, ben damage control, c'est-à-dire que maintenant, le jeu a été purement et simplement retiré de la vente. Et ça, je crois que le fait que, en catastrophe comme ça, le jeu soit retiré, je me dis, est-ce que ce serait pas lié au fait qu'il y a un système de remboursement maintenant? Mais j'extrapole peut-être, hein, mais
tu vas trop loin là, je pense. C'est quand même symptomatique sur PC en tout cas ces derniers temps. Il y a déjà eu le cas avec Mortal Kombat ou Mortal Kombat 10 où la sortie était catastrophique. Il y a eu le même cas pour Dead or Alive 5. Qui a eu ce problème-là. C'est-à-dire, en fait, ils développent le jeu sur console, et puis sur PC, ils font un portage, mais c'est pas genre le portage bien, c'est le portage à l'arrache, et il n'y a pas une personne qui est censée faire un test qualité, juste avant, je sais pas, de sortir le jeu sur les plateformes. Normalement, tu testes sur la version Xbox One, la version PS4, et la version PC. Si, sur une plateforme, le jeu n'atteint pas les standards de qualité requis, dans ce cas-là, soit tu repousses ton jeu sur la version PC en disant que voilà, il y a des problèmes et qu'il faut vraiment que le studio travaille dessus pour les corriger, soit tu veux pas louper le tir et tu repousses sur les trois supports et puis tu fais une sortie simultanée, mais tu sors pas le jeu dans un état comme ça, c'est pas possible quoi. Enfin, ça serait pas du jeu vidéo, ça serait dans n'importe quel autre domaine, mais les gars ils seraient fait brûler vif et ils auraient mangé un procès au cul si ça serait aux États-Unis. Je te parle même pas d'une catastrophe quoi.
Non, mais puis des gens se feraient rembourser, tout simplement. Enfin, tu vois, c'est bizarre, hein, quand on permet aux consommateurs de se défendre, Il y a des trucs qui changent, quoi. C'est curieux, hein. D'ailleurs, à propos de jeux qui marchent mal sur PC, n'achetez pas le portage de Tukiden, hein. Je rappelle Tukiden, c'est un peu le Monster Hunter avec des démons sur Vita, là, qui vient de sortir en sur PC. C'est pareil, le portage est une véritable catastrophe de ce que j'ai vu, donc ne l'achetez surtout pas, voilà. Faut arrêter de dire, quoi, à un moment donné, là, les mecs... Faut engager des gens qui sont sérieux, et surtout, au-delà du sérieux des équipes qui sont sur les projets, il faut leur donner les moyens, quoi. Parce que c'est surtout ça, le souci, c'est que, à un moment donné, si tu fais faire un portage à l'arrache dans des délais qui sont pas tenables, quoi, bah il faut pas s'étonner, quoi.
Ça me rappelle que les Japonais, c'est un petit peu des manchets, hein, en ce qui concerne le PC. Il y avait eu le cas aussi avec le premier Dark Souls où le jeu était à 30 images par seconde sur PC et le portage était vraiment fait à l'arrache. Ils savaient pas du tout développer sur PC, les mecs. Et donc le jeu était sorti dans un état vraiment assez mauvais. Donc il y a eu un modeur qui a dû faire un patch correctif. Il a codé ça en 24 heures, le gars. Il a fait vraiment un superbe boulot pour avoir une version PC, on va dire, un peu correcte. Et ça, c'était un problème qu'ils ont pris à bras-le-corps pour Dark Souls 2 parce que là, ils ont vraiment mis du 60 images par seconde. Le portage était un peu mieux réussi, sauf que là, après, pour Dark Souls 2, ils avaient un peu pipoté sur les graphismes. Et pour Batman, c'est, je veux dire que les mecs, ils ont déjà sorti des jeux sur PC, quoi. C'est pas comme si c'était tout neuf pour eux. Ils ont déjà fait le Arkham City, le Arkham Asylum.
La boîte qui s'en occupe, hein, c'est pas, enfin, ils sont toujours occupés de la série. Alors, après, la série a toujours eu quelques petits soucis sur PC. Mais il n'y a jamais eu quelque chose de cette ampleur, quoi, si vous voulez.
Oui, voilà.
Et surtout,
ça.
À l'époque, il n'y avait pas de système de remboursement. Et c'est ça, à mon avis, qui change tout. C'est-à-dire que maintenant, les gens peuvent dire au studio, allez vous faire foutre. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire que maintenant, quand on se fout de notre gueule, on peut acheter les jeux, se rendre compte que bah non, ça marche pas, et puis dire bah écoute, ça marche pas, je me fais rembourser, quoi.
Ah mais ça, c'est cool. Ça, ce qui serait cool, c'est que ça devait être frais de base, tu vois, genre depuis le début des jeux vidéo, ça arrêtait bien que c'est ça un truc que nous aussi, consommateurs de ce média-là, on ait le droit aux mêmes conditions que pour n'importe quelle autre chose, quoi, n'importe quel bien que t'achètes. Si t'achètes, je sais pas, un téléphone en magasin, il marche pas, tu vas te dire ouais, écoute, ton téléphone il marche pas, tu me rembourses mon argent maintenant. Je suis bien gentil, soit tu m'en donnes un autre qui marche. Enfin là c'est pour un téléphone donc voilà, c'est il peut te changer, mais Batman.
Parce qu'on parle d'un objet physique sur voilà. le digital, on va dire que la loi n'est pas tout à fait aussi claire. Voilà.
C'est ça. Mais le Batman il peut pas te donner un autre parce que ça sera le même fichier et puis donc si un est buggé, l'autre sera buggé pareil. C'est ça qui change, mais sinon nous ça serait bien que pour tous les jeux que tels qu'ils soient, si ça marche pas bah tu te fasses rembourser. En plus de ça, bien fait pour leur gueule, parce que sur la page Steam, il y a eu vraiment mais beaucoup de commentaires négatifs, ils se sont fait pourrir la gueule, donc ça a averti un petit peu les gens en disant attention, ne prenez pas trop le jeu, parce que nous on l'a acheté, on s'est fait un peu entuber, donc faites attention si vous voulez le prendre, soyez bien conscient qu'il y a ces défauts-là, et ça c'est vraiment bien.
En plus, je précise que maintenant, on a un programme qui s'appelle Steam Spy, qui permet d'avoir des statistiques sur les ventes des jeux, et du coup je pense que ça joue aussi, si tu veux, en termes d'image. Maintenant les gens peuvent aller voir, alors ils ont à combien le jeu là, ah les ventes c'est pas si top que ça, parce qu'en plus il y avait tout l'opacité, si tu veux, de Steam avant sur ces questions là maintenant on a un truc qui est relativement fiable d'après ce qu'on a pu observer avec les studios, etc. Enfin, apparemment, c'est plutôt un programme qui marche bien, quoi, avec une marge d'erreur qui est assez correcte. Et donc, vraiment, on a moyen de se faire rembourser, et en plus, on a moyen d'observer l'impact qu'ont ce genre de pratique sur les ventes. Et moi, je trouve ça très bien qu'il y ait un peu plus de transparence, tu vois, sur PC. Et que voilà, on puisse enfin dire au studio, mais on s'il vous plaît, on n'est pas des vaches à lait, quoi. Jusque là, si tu veux, on subissait un peu, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que bon, tu pouvais essayer de négocier avec le Valve pour te faire rembourser, mais c'était bon, on va dire en fonction de l'humeur, quoi.
Et encore, c'était assez rare qu'ils remboursent. Pour qu'ils te remboursent, il fallait vraiment y aller et avoir des bons arguments, quoi, j'ai envie de dire. Je voulais juste souligner que le fait que c'est le studio Iron Galaxy Studios qui a fait le portage du jeu sur la version PC. Donc, on sait jamais si un jour vous tombez sur un jeu fait par eux, faites attention, voilà.
Après, tu vois, je veux pas forcément charger la barque sur le studio parce qu'on sait pas comment ça a marché, en fait. C'est peut-être que le studio a vraiment fait de la merde, hein, ça on sait pas, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'aussi, ils ont bossé dans des conditions qui étaient pas acceptables non plus, tu vois. Ils ont fait avec les moyens du bord.
Donc, mais bon, ils vont toujours rester vigilants,
quoi. Je veux pas non plus forcément, voilà, enfin, on sait pas comment ça s'est passé. Tout simplement. Ouais. Est-ce que c'est une situation, tu vois, à la Sega et, comment il s'appelait, ceux qui font Borderlands, là.
Gearbox.
Ouais, Gearbox, ou Gearbox a complètement arnaqué de Sega, tu vois. Enfin, c'est pas toujours l'éditeur qui, enfin, si, dans tous les cas, l'éditeur est en tort, mais si tu veux, il y a un certain degré, quoi. C'est-à-dire que dans le cas de Sega, par exemple, bon, c'est quand même leur boulot à la base de vérifier ce que fait Gearbox, si vous voulez, mais il faut quand même dire que Gearbox les a bien arnaqués, quoi, sur ce coup-là.
Faut dire ce qu'il y a. Ils ont pris l'argent pour faire Borderlands, quoi, et puis voilà, Alien Colony Marine.
Mais, donc, là, on sait pas. Voilà. Mais, par contre, à un moment donné, ce qui est sûr, c'est que, je suis désolé, quand le jeu est sorti, l'éditeur savait dans quel état il était, et qu'ils ont décidé de le sortir quand même dans cet état-là. Enfin, je comprends pas, si tu veux, que quand même, les mecs étaient au courant, tu vois, qu'il y avait le système de remboursement, maintenant, qui était en place. Et ils ont quand même sorti le jeu, tu vois. Alors que les consommateurs ont un moyen, tu vois, si tu veux, de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire le portefeuille, les mecs sortent quand même le jeu. Ou alors, c'est la force de l'habitude. À force de faire de la merde et d'être impuni, tu vois, ben, les mecs continuent, et là, tac. Ah, tiens, ça... Ah oui, ça pique.
c'est vraiment là où je me pose la question s'ils font des tests de qualité en interne sur les versions du jeu. Tout à l'heure, je parlais de Mortal Kombat 10, c'était pas sans raison parce que c'était toujours Warner Bros l'éditeur. Donc je me demande vraiment si pour ces versions PC, ils testent leur jeu quoi au moins bon, avant la sortie pour que tout soit aux normes. Et enfin c'est quand même choquant quoi. C'est la même année, ils font deux fois une erreur pareille. Enfin, bientôt, si ça continue comme ça, les joueurs PC, ils achèteront plus leur jeu Warner Bros. Et ça va être un boycott total, quoi.
Ah, j'ai hâte de voir le prochain Assassin's Creed, en tout cas.
Ah, ça sera pas Warner Bros, par contre. Dommage.
Oui, non, mais voilà, quoi. Ah ouais. C'était la petite piquée Ubi. Hein,
non, mais par contre, Assassin's Creed, je trouve que t'es un peu méchant parce que Assassin's Creed, ils ont été gentils, ils ont fait le même cas pour les trois versions du jeu,
ouais,
quoi.
Non, mais pas de discrimination.
Voilà, c'est
là,
ça.
Hein,
ils ont dit, joueurs console et PC.
On se fout de la gueule de tout le monde.
Joueurs console et PC, on vous aime comme ça, vous êtes des pigeons.
pigeons. Allez, nous allons parler maintenant de Horizon Zero Dawn. La nouvelle IP de Sony. Alors, apparemment, mon cher ATH, les tutos, on en aura a priori pas trop, de ce voilà. Que j'ai compris, dans ce jeu, et c'est parfois une bonne nouvelle.
Disons que ça va contre-courant avec ce que nous fait l'industrie aujourd'hui, parce que maintenant, les tutos, vous savez, avant de commencer un jeu, il y a un tuto qui vous explique pendant une heure ou deux toutes les touches, comment les faire, les utiliser à quel moment, et parce que voilà, il faut que tout le monde puisse finir un jeu, donc ça va un petit peu, on va dire, dans la casualisation du jeu vidéo. Et là, ce qu'ils ont tenté de faire, en tout cas, c'est une promesse, on va voir si elle va être tenue. Ils veulent vraiment que le joueur découvre comment faire pour affronter un monstre par lui-même, et ça, je trouve que l'incorporer dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est vraiment une bonne chose. Et ce qui est assez fort, c'est qu'ils veulent faire ça aussi sur le plan narratif. C'est-à-dire qu'ils vont pas nous expliquer avec des tonnes de cinématiques qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais si tu explores bien, et ben normalement le jeu devrait être fait assez subtilement pour que tu comprennes les choses par toi-même aussi.
Ah, je sens que ça parle au petit joueur de Dark Souls là qui est là, son petit cœur.
Exactement.
Enfin, moi de toute façon, les tutos à la base, je dis comme je pense, pour moi c'est la solution de flemmarde. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de plus facile que de dire, alors en gros, on va stopper le jeu, tu vois, tac, on va te mettre bien en gros sur l'écran ce qu'il faut faire, quoi.
Ouais.
Pour moi, c'est vraiment la solution de facilité, anti-immersif possible, qui fait que, bon, ben, du coup, tu profites pas du jeu, quoi. Alors après, je veux bien qu'il y ait des jeux où il y ait besoin de faire ça, non, j'imagine notamment, je sais pas, une simulation spatiale, tu vois. C'est sûr que là, faire ça un tuto, ça va être compliqué quand même. Hein. Quand t'as 3 milliards de boutons à gérer, etc. Voilà quoi. Je comprends qu'il y ait des tutos, mais par contre, vous m'excuserez, la plupart des jeux aujourd'hui sont quand même assez simples, pour ne pas dire simplistes. Hein. Et du coup, je suis persuadé que dans l'immense majorité des jeux qu'on a aujourd'hui, il y aurait moyen de faire des expériences beaucoup plus immersives sans tuto. C'est juste que les mecs ont la flemme, c'est tout.
Après, des bons tutos, il y en a quelques-uns, tu vois. Par exemple, moi, je pense au premier Splinter Cell. Le tuto, il est bien incorporé dans l'histoire, c'est-à-dire que Sam Fisher, ça faisait un petit moment qu'il avait pas pris du service. Et là, donc, il le rappelle pour une mission. Mais avant, comme ça fait un petit moment qu'il était à la retraite, ils lui disent bon bah on va voir si t'es toujours en forme, donc tu vas faire le parcours d'entraînement qu'on fait faire aux nouvelles recrues. Et puis là tu apprends les touches et tout ça. Donc là si tu veux c'est incorporé dans l'histoire et puis c'est fait une fois au début du jeu et puis ça passe. Et il y a certains jeux avec des tutos comme ça qui sont faits de manière assez subtile pour pas devenir redondant. Et moi ce qui est assez bien, tu parlais tout à l'heure de simulation spatiale, c'est sûr que s'il y a 40 000 commandes, et bah s'ils font un truc genre bon alors là t'as un truc d'entraînement. Et puis tu t'entraînes sur une simulation et puis après avant de te laisser devenir le pilote de l'espace et d'aller faire tes missions aux quatre coins de la galaxie, on va voir quand même ce que tu vaux.
Et non mais aussi ce qu'on peut faire même sans ça, tu vois, c'est par exemple le tuto est optionnel, c'est-à-dire OK, t'as la simulation spatiale. Alors si tu veux, tu peux te faire chier, tu vois, tu prends le mode d'emploi. Oui, je sais le truc qui n'existe plus dans les jeux aujourd'hui. Par exemple, parce que je me rappelle, tu vois, il y avait un jeu qui s'appelait Independence War qui est une espèce de simulation spatiale. Il y a vraiment énormément de touches, quoi, tu vois, sur ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a carrément, il fournit carrément un plan du clavier, quoi, si tu veux. Tellement il y a de touches dans ce putain de jeu, quoi. Et je me rappelle que, moi, j'avais pris le plan du clavier, tu vois, et j'expérimentais, en fait. C'est-à-dire que, tu peux mettre un tuto, tu vois, tu montres que le tuto est optionnel, par exemple. Et tu dis, mais, si tu veux pas faire le tuto, enfin, tu passes à la suite, quoi. C'est d'ailleurs ce que fait par exemple The Witcher 3, c'est-à-dire que t'as une séance d'entraînement au début du jeu, et puis tu veux zapper la séance d'entraînement, tu la zappes, quoi, en fait, tout simplement.
Ouais, mais après, tu vois, il y a des jeux où il y a des tutos, mais le tuto il dure du début jusqu'à la fin du jeu. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas arriver dans une salle, genre où il y a un minimum, d'énigmes ou n'importe quelle chose, il va te dire, ah bah regarde là-bas, si tu tires une flèche dans la flamme, ça va brûler la toile d'araignée qui est juste derrière, tu vas pouvoir passer. Et ça, il y a des jeux qui comprennent pas qu'il faut faire ça au début du jeu pour te expliquer un petit peu les bases.
Non, ou même, tu vois, enfin, tu le fais de manière subtile, quoi, ou tout simplement, tu prends pas les joueurs pour des débiles, parce que je suis désolé. La plupart des jeux qui sont comme ça, c'est des trucs, franchement, si tu prends deux secondes le temps de réfléchir, tu te rends compte que, ah oui, ça marche comme ça, tu vois.
Ouais, mais tu vois, surtout que les énigmes, maintenant, c'est pas les trucs les plus compliqués qu'on connaisse. Mais tu vois, il y a des jeux, enfin, le tutoriel, il s'arrête pas. C'est ça vraiment le gros problème aujourd'hui. C'est qu'avant, on faisait bien sans. On lisait la notice, parce que la notice, ça nous servait un peu aussi de background sur le jeu, parce ça donnait des détails sur l'univers. On s'imprégnait un peu du jeu avant de pouvoir mettre la galette. Et puis maintenant, tu vois, il y a déjà la notice, elle n'existe plus. Tu mets ton jeu et puis il te mâche tout le travail. Donc moi, il y a un peu des gens qui disent que le jeu vidéo était mieux avant parce qu'il y a une partie de leur plaisir qui est partie à cause de ça, quoi.
Oui, parce que une partie du plaisir d'un jeu vidéo, moi je suis désolé, mais pour moi c'est l'apprentissage. Et si tu veux, j'ai toujours un souci avec les game designers, tu vois, qui raisonnent comme si l'apprentissage était un truc forcément chiant où tu prenais aucun plaisir. Moi je suis désolé, si la phase d'apprentissage est chiante, c'est que le jeu est chiant, en fait.
Ouais,
je sais pas, hein, franchement, si tu considères que la partie gameplay de ton jeu est suffisamment inintéressante pour que les gens n'aient pas envie de creuser, c'est que ton gameplay est superficiel, je suis désolé. Enfin voilà, qu'est-ce qui fait que par exemple là je viens de finir Dark Souls après des années avoir laissé traîner sur mon PC, où j'ai passé une centaine d'heures dessus là. Qu'est-ce qui fait que j'ai passé 100 heures sur le jeu, c'est que voilà, j'ai eu envie de creuser, quoi. Enfin, c'est que le gameplay était suffisamment profond pour me donner envie de creuser le truc, quoi. Et pourtant, je sais que c'est pour le coup Dark Souls, c'est pas l'expérience la plus user friendly qui existe, quoi, on va dire.
C'est un petit peu l'antithèse de tout ce qui est tutoriel, quoi. Il y a pas de tuto, tu te démerdes. L'histoire, tu la comprendras si tu veux la comprendre, mais elle est optionnelle, on va dire. Tout est optionnel, à part le fait que tu meurs en boucle et puis c'est tout.
Enfin voilà, vous l'aurez compris, les tutos c'est pas notre cam. Dans tous les cas, c'est une nouvelle, moi, qui me donne encore plus envie de m'intéresser à ce jeu. Surtout, tu vois que les mecs ont compris que si tu veux faire une expérience un peu plus narrative, ben justement, mettre un énorme tuto où on te dit attention, il faut appuyer sur ce bouton-là pour que ça fasse ça, c'est peut-être pas idéal, tu vois, quand tu veux raconter une histoire. Déjà, tu vois, ça c'est pas mal, hein. On se dit que au moins les mecs, ils ont compris un peu le délire, quoi, comment ça fonctionne. Enfin bref, dans tous les cas, c'est un jeu qu'on continuera de suivre, hein, parce que la direction artistique bute toujours autant et les mecs ont l'air d'avoir des idées quand même. Donc écoute, on verra ça.
Ah, ça fait plaisir que surtout venant d'un studio comme Guerrilla Games, quoi, qui avant faisait des Killzone qui étaient pour moi assez mou et assez chiant, là je vois qu'ils sont quand même renouvelés. Déjà c'est pas un FPS, ils font quelque chose d'autre, et puis même ils essayent de prendre des risques dans ce qu'ils font.
Parce que attends d'y jouer avant de...
Mais au moins ils ont pris, on peut pas dire qu'ils ont pas pris de risques.
Oui,
le héros c'est une femme, c'est un univers qui est pas trop été fait dans le jeu vidéo, des robots dinosaures, enfin tu vois, c'est pas un truc, c'est un truc qui sort des sentiers battus, et déjà, et en termes de triple A, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, et ça fait du bien, vraiment. Je suis encore sur le cul, quoi.
C'est justement ce que je voulais rajouter, tu vois, par rapport à la conférence de Sony. C'est par contre qu'on n'avait pas évoqué durant le podcast, c'est, tu vois, après coup, moi je me dis, en fait, ce qui fait aussi que j'ai plus apprécié de la conférence de Sony, même si Microsoft à court terme a beaucoup plus de choses à proposer, en fait, c'est tout simplement que les jeux proposés par Sony m'intéressent plus. Parce que The Last Guardian, ok, c'est une arlésienne, mais on peut pas lui retirer que a priori ce sera une expérience un peu à part, quoi. Et là, ce Horizon, là, c'est pareil. Enfin, tout ce qui est direction artistique, tout ça, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez décalé par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Et c'est ça qui fait que pour le coup, la conférence Sony m'attire vraiment, quoi. Ils prennent des risques. Ils ont pris des risques avec Bloodborne encore. Franchement, je suis surpris de ce que fait Sony pour le moment sur cette génération. Et qu'il continue comme ça, hein, parce que pour le coup, je suis vraiment très très agréablement surpris.
Quelle habile transition, tu parlais justement de The Last Guardian.
Ouais, The Last Guardian, justement. Alors, on croyait durant la conférence Sony qu'ils nous ont fait en mode non, mais il ne s'est rien passé, tout le monde est content, voilà. Et vécu heureux et eu beaucoup d'enfants, mon cul, ouais. C'est-à-dire que si vous rappelez pas la conférence, en gros, ou si vous n'avez pas suivi le 3, durant la conférence Sony, ce qui s'est passé, c'est que le boss de Sony était sur scène. Il a salué le travail de Fumito Ueda qui était dans l'assistance. Ils étaient là en mode réunion de famille, tout va bien, tout ça. Seulement, de ce que j'ai compris, à TH, il y a eu par la suite des déclarations dans différents magazines. Une du boss de Sony, puis maintenant, voilà. Là, cette semaine, une de Fumito Ueda, qui se contredisent un petit peu, je crois.
Voilà, alors en fait, Tsuchi Yoshida, le patron de chez Sony, a dit chez GameSpot que le changement de plateforme a été fait parce que The Last Guardian sur PlayStation 3 il tournait pas très bien, et qu'il y avait des problèmes au niveau des performances et que les qualités requises pour ce jeu-là n'étaient pas atteintes.
En gros, le jeu tournait sur une station de travail, quoi, tout simplement. Ils nous bullshitaient à l'époque, ce dont on se doutait.
Voilà, et donc ils ont dit, on a préféré sortir le jeu sur PlayStation 4 pour des raisons de performance. Le jeu tournera dans les conditions voulues. Et là, en fait, l'interview donc de Fumito Ueda, le créateur du jeu, qui a donné une autre interview chez Game Informer. Selon ses dires, oui, à l'époque, il y avait des problèmes sur PlayStation 3, mais c'était pas un truc totalement insurmontable. C'était plus dû à la stratégie de Sony de faire que le jeu sorte sur PlayStation 4 et pas sur PlayStation 3.
En gros, ils avaient besoin de contenu pour la PlayStation 4 et ils ont switché le travail sur PlayStation 4, quoi.
Et il dit que au moment, il dit c'est plutôt une décision stratégique de la part de Sony, et il dit et nous arrêterons là parce que tu sens bien que le mec il peut pas en dire plus.
Donc il dit que son patron dit de la merde. Voilà.
Voilà. Mais en fait, comme c'était une interview qui a été faite chez deux confrères différents. En fait, au même moment, lors de l'E3, les deux trucs sont sortis. Tu vois, il y a eu un article où ils ont mis les deux confrontations l'une au-dessus de l'autre. Ils ont dit, mais attends, lui nous dit ça, lui nous dit ça. Donc, il y en a un des deux qui ment, ou bien les deux, ils mentent.
Par contre, ça, c'était précisé dans l'article que c'était pendant l'E3 qu'ils ont fait cette interview.
Oui, en fait, c'était pendant l'E3 qu'ils ont donné une interview, une à GameSpot et une à Game
Informer. Oui, parce que là, si tu veux, pour le coup, ça change pas mal l'interprétation, parce que là, par contre, ça veut dire, à mon avis, qu'ils sont pas du tout concertés. Et que, du coup... le mec a taclé son boss sans s'en rendre compte.
Mais en fait,
ou la boulette.
c'est exactement ça. C'est que en fait, l'interview ont été données à peu près au même moment, sauf qu'elles sont sorties après le 3, parce qu'à le 3 il y a toutes les news et tout ça à faire.
Même, hein. Franchement, ils ont été vaches là sur ce coup-là, c'est un peu.
Ouais, mais comme ils ont pas été faits au même confrère, ouais. le premier a dû sortir son article, et puis le deuxième une semaine plus tard a sorti son deuxième article,
là,
et puis là.
Enfin là, c'est. Et là, à mon avis, ils l'ont attendu exprès, là, je pense, hein, mais...
ils ont fait, oh, oh. Il y a un petit problème, c'est pas les mêmes déclarations.
Ah ouais, non, mais à mon avis, le mec, il est sorti de son interview, il a vu que son boss avait dit exactement le contraire, il a fait, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait encore? À mon avis, ça a dû barder dans les chaumières, là.
Je pense que Ueda, il va pas faire long feu s'il continue à faire des déclarations comme ça.
Bah, en même temps, il est plus chez Sony, hein, donc il s'en fout un peu.
Mais... Ouais, là, il est indépendant, mais bon, je pense, tu vois, on sait. Là, je te parlais vraiment de genre, Yakuza, tout ça, quoi. C'est faire éliminer, plus de vie.
Enfin, bref. Comme quoi, hein, ce développement, il s'est pas aussi bien passé, en tout cas, qu'on a bien voulu nous le dire. Hein. En tout cas, en termes humains et relationnels, je pense qu'il y a eu quelques petits soucis, quand même. Enfin, bref. Nous allons maintenant passer au scandale de la semaine. Alors, messieurs, dames, vous êtes au courant, si vous suivez l'actualité qui a eu récemment des tueries aux États-Unis, vous savez la propension qu'a une certaine société, à savoir Apple, à jouer les chevaliers blancs, n'est-ce pas ? Et à interdire des choses sur son store pour des raisons morales, ce qui me paraît totalement absurde, enfin bref. Et donc, nous avons eu, cette semaine, le dernier acte de chevalerie de Sieur Apple, c'est-à-dire que, comme il y a eu récemment des tueries aux États-Unis, ben ils ont décidé que le drapeau confédéré, qui est utilisé, je rappelle, par certains mouvements, on va dire, d'extrême droite, là-bas, notamment à l'encontre des Noirs, etc.
N'est-ce pas ?
Eh bien, ce drapeau a été purement et simplement interdit sur toute application qu'il y a sur le store. Donc ça veut dire que quand vous êtes une société qui fait un jeu comme par exemple General Gettysburg, qui est en gros un jeu de stratégie où il y a le drapeau confédéré, parce que voilà, ça raconte la guerre civile aux États-Unis, donc bah oui, il y a les sudistes, hein, je veux dire. ils avaient un drapeau, que vous le vouliez ou non, vous pouvez pas effacer l'histoire, quoi, j'ai envie de dire. Eh bien, ça veut dire que votre jeu est retiré de l'Apple Store. Comme ça. Parce que, tout simplement, vous avez mis le drapeau confédéré, parce que c'était les confédérés, quoi, putain. Mais enfin. moi, je sais pas pour toi, TH, mais moi, ça me... Je suis soufflé.
Moi aussi, enfin, on parle de quelque chose d'historique. C'est pas, enfin, c'est comme le drapeau nazi, ça appartient à l'histoire. Et si tu veux parler de ce moment-là, sans montrer des images d'archives et des trucs qui correspondaient à cette époque-là, moi, je trouve ça quand même assez choquant. Mais de toute façon, Apple, ils sont coutumifiés déjà. Ils avaient déjà eu la même chose pour tout ce qui était gun sur une application. Si tu mettais une photo du gun en image d'illustration pour acheter ton truc, pour acheter ton jeu, bah, il était retiré de l'Apple Store. Sauf que à l'intérieur, du contenu, ils s'en foutaient royalement, quoi. Si tu pouvais tuer tout le monde dans le jeu, ils s'en foutaient. Maintenant, là, ils s'attaquent vraiment à au drapeau pour cette histoire-là.
Ah non, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que il y a une déclaration de Apple qui disait qu'en gros, si vous voulez parler de certains sujets, par exemple, vous pouvez le faire dans un livre, vous pouvez le faire en chanson, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, dans un jeu vidéo, non. C'est-à-dire que chez Apple, on considère que le jeu vidéo est un peu à cas à part. Tu vois, c'est pas une, il peut pas y avoir une certaine forme d'expression dans un jeu vidéo. Tu peux pas défendre certains propos, etc. Et donc, ils s'autorisent ce genre de truc qu'ils ne s'autoriseraient pas, par exemple, avec un bouquin.
Ouais, bah ça... là, c'est encore pire. C'est enfin ce média-là, il a déjà pris tellement cher dans la gueule que là, c'est enfin. C'est une goutte d'eau, quoi.
Enfin, ils infantilisent le jeu vidéo, quoi, en fait. Et même au-delà de ça, limite pour moi, c'est du révisionnisme, tu vois. C'est-à-dire que on interdit un jeu qui parle de la guerre de sécession, mais enfin, tu peux pas effacer l'histoire, quoi, putain.
Les mecs qui ont développé le jeu, qui ont mis du temps à se documenter, à chercher des trucs. Enfin, je sais pas, je connais pas le jeu, mais bon, ils ont fait un minimum de recherche et tout, ils ont mis quand même du temps et de l'argent dedans en termes de ressources. Puis là, les mecs d'un coup disent ah non, en fait vos drapeaux, il y a eu ça qui s'est passé aux États-Unis. Oui, enfin là, je minimise pas l'atrocité qui s'est passée aux États-Unis. Hein. Je dis pas que c'était un acte banal ou surtout pas. Mais par contre, ils sont pour rien dans l'histoire. C'est pas de leur faute si à ce moment-là, il y a eu un mec qui a décidé de faire ça, quoi.
Non, mais en plus, non mais au-delà de ça, ça n'a foutrement aucun rapport, quoi. Enfin, ce n'est pas à une entreprise priver de faire la police au niveau de la morale, quoi. Alors, je sais bien que j'ai souvent dit ici que j'étais pour, par exemple, le fait que Steam fasse le tri sur son magasin, mais attention, je parle de qualité en termes de finition des jeux, là. Il y a quand même, si vous voulez, une marge entre refuser un jeu parce qu'il n'est pas terminé et refuser un jeu parce que, selon la morale du patron, ça correspond pas à ses standards, quoi. Enfin, à un moment donné... Je trouve ça ahurissant, parce que, en plus, si vous voulez, si tu veux vendre un jeu aujourd'hui sur mobile, c'est soit iOS, soit Android. Et malheureusement, ce qui rapporte le plus au jour d'aujourd'hui, c'est iOS, parce que sur Android, ils sont habitués à pas payer, donc voilà. Donc, ça veut dire que, en gros, c'est comme si aujourd'hui, tu ne sortais pas ton jeu sur Steam, quoi. Enfin, tu te rends compte, si un développeur peut pas sortir son jeu sur Steam, l'impact que ça peut avoir sur... l'activité d'un studio.
Et du coup, il est mort si c'est un indépendant.
Et du coup, l'impact par effet ricochet que ça a sur la production qu'on peut avoir, quoi. C'est-à-dire que, en gros, une boîte, comme Apple, est nuisible, et un parasite, enfin, pour moi, je suis désolé, c'est des parasites, qui impactent négativement la diversité de notre média, quoi. C'est-à-dire que, en gros, on va avoir des jeux qui seront limités parce que une boîte privée a décidé que, selon sa morale, on ne pouvait pas sortir tel ou tel type de jeu sur sa plateforme, mais... Et en plus, sur des détails à la con, quoi. Je veux dire, là, c'est un drapeau, et la prochaine fois, ça sera quoi? Enfin...
La prochaine fois, ça sera une moustache.
on est plus à ce genre d'absurdité près, quoi.
C'est Apple, quoi. On les connaît, ils ont déjà eu plusieurs cas de censure comme ça. Je pense pas que ça sera le dernier. Que peut-on y faire à part éviter de développer sur cette plateforme-là? Mais bon, comme tu l'as dit, si tu fais pas ça sur les jeux mobiles, t'es quasiment inexistant, quoi. T'existes même pas, en fait.
Voilà. J'espère qu'ils ont un changement de politique chez Apple, mais bon, ça fait des années que ça comme change, j'ai envie de dire, je me suis un peu résigné.
Tu peux rêver, je pense.
Oui, c'est ça. Alors, par contre, y en a qui ont changé, là, récemment, c'est Nintendo, hein, putain.
En totale roue libre.
Alors, pour le coup, Nintendo, j'ai l'impression qu'ils récemment, ils ont découvert le cul, tu vois, et là, ils sont totalement partis en freestyle. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité du nouveau Fire Emblem, et il s'est passé des trucs assez récemment, là. Alors déjà, bon, je vous rappelle, l'un des persos dans le jeu, c'est une nana avec des énormes nibards, et il y a des scènes qui ont leaké par rapport au jeu. Enfin, franchement, j'hallucine totalement, quoi.
Mais surtout les plans, quoi. Plans de caméra.
Attends, en gros, la nana, déjà, elle se balade en slip, c'est-à-dire que son slip est visible, quoi, sous son armure. Les mecs ont designé une armure avec un slip visible, quoi, ce qui déjà est... Enfin, on va me dire, oui, mais chez tous les Japonais, c'est comme ça. Oui, enfin, on parle de Nintendo, là, quand même. Hein. C'est Nintendo, quoi. Et en plus, enfin... Je veux dire, c'est déjà, outre le fait que c'est largement putassier, et que c'est... Alors que, jusque-là, justement, Fire Emblem, une des rares séries chez Nintendo, où, par exemple, il y avait eu des personnages homosexuels dans Fire Emblem, c'était traité de manière assez subtile, etc. C'était une des rares séries, justement, chez Nintendo, où, voilà, c'était fait de manière plutôt intelligente, et on abordait certains thèmes, etc. Là, t'as Nintendo qui nous sort un personnage, comme ça, où il y a des scènes où, en gros... la nana avec les seins opulents qui oscille au vent, enfin c'est, on fait un énorme plan sur son cul, enfin c'est vraiment le truc totalement putassier, tu vois, pour plaire à l'adolescent moyen, quoi, on va dire. Et en plus, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine, c'est que maintenant dans le jeu, tu as accès à un mode où tu pourras enlever l'armure des personnages. Jusque-là, bon, normal, hein, je veux dire, tu changes les armures, etc. Sauf qu'avec ton petit stylet, tu vois, que tu tiens dans ta main, tu pourras faire des attouchements sur les personnages. Tu pourras les caresser, tout ça. Et tu connais. Mais vraiment, hein. Et il y aura des petites interactions, tu vois. Il y aura des dialogues un peu coquins et tout. Et puis même, tu pourras faire ça avec une gamine de 12 ans. Hein, toi? Attends, stop.
J'arrête le podcast, là.
Non, une seconde, quoi. Une gamine de 12 ans. Oui, vous avez bien entendu, une gamine de 12 ans. Vous savez, la petite gamine qui te dit là, Oni-chan! Dans le trailer. Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu pourras faire des petits attouchements sur une gamine de 12 ans. Vous avez pas l'impression que vous allez un peu loin, là, Nintendo? Non? Non? Anyone?
Non, ça va.
Non, là, sachant que je rigole, mais je trouve ça effarant, hein, en fait, hein, mais je trouve ça complètement hallucinant, quoi. Pour le coup,
je sais pas quoi dire devant un truc enfin tu vois, c'est pour, enfin pour moi c'est déjà sur la gonzesse là qui est déhanché son fessier, il te zoome dessus sur les nibards, sur l'arrière.
Entre nous, on va pas faire les prudes, hein. On sait très bien que les Japonais quand ils s'y mettent, ça donne ça. Parce que quand tu connais un peu l'animation japonaise, j'ai vu des trucs mille fois pire. Hein. Ça s'appelait High School of the Dead, je crois, un truc comme ça, où les nanas elles évitaient les balles, t'avais les seins, tu vois, qui virevoltaient pour éviter la balle, quoi. Pour te donner un exemple, hein. Ça va jusque là, hein. Donc venant des Japonais, tu vois, ça me surprend pas forcément, tu vois, je veux pas faire la prime non plus. Mais par contre, venant de Nintendo, là, ça, j'avoue que je fais, mais en fait, ils ont découvert le cul récemment et du coup, ils ont ouvert les vannes, quoi. C'est open bar.
Non, mais c'est exactement ça. C'est que je te parle de vraiment de que c'est Nintendo qui fait ça, quoi. Si ça aurait été un autre truc, ça aurait été quasiment normal, quoi. Sur ce plan-là, mais après, enfin le truc des gamines où tu peux faire des attouchements, ça non, même si ça, c'est un autre studio, on va dire des studios avec des penchants hentai et tout, enfin, je veux dire quoi, une gamine de 12 ans, c'est pas un truc...
Encore, je dis 12 ans, j'ai l'impression qu'elle est plus jeune, hein, quand tu regardes le trailer, enfin bref, le côté un peu érotique, machin, moi je veux bien, hein, s'ils assument, etc. Par contre, dès que tu commences à mettre des gamines de 12 ans, là, ça, oui, effectivement, ça me pose un petit souci, quoi, c'est, y a un petit problème, quoi, quelque part. En plus, c'est sa sœur, quoi, tu vois, tu fais, les mecs?
On est un jeu Nintendo, ou c'est un jeu 18+, réservé à...
Ah, mais après, on voit rien, hein. C'est non, ça le truc, on va en voir rien.
Non mais c'est, on n'a pas besoin de voir, quoi.
Dans le truc là, où, dans le mode, on va dire, où tu déshabilles les personnages, quoi. Bon, ils ont encore leur soutif, hein, et les mecs ils sont en slip, mais... alors pour le coup, hein, y a pas de discrimination, hein. Là tu pourras faire des attouchements sur les mecs aussi, y a pas de problème. Hein. Ça, ils sont vraiment allés en mode open bar chez Nintendo, là. Mais, waouh. Premièrement, c'est le choc, quoi, tu te dis... Mais il se passe quoi chez Nintendo, là, c'est hallucinant, quoi. Et après, tu vois l'histoire de la gamine, là, tu fais, ah oui, quand même.
Ah oui. Mais, enfin, surtout que, ce qui est assez, enfin, le truc qui est quand même vraiment choquant, quoi, c'est, bah, déjà l'histoire que, le fait que ça soit vraiment un frère et une sœur, donc c'est de l'inceste.
Bah, à la limite, moi, j'ai envie de dire, l'inceste n'est pas interdit en France, hein, donc, s'ils veulent parler de l'inceste dans leur jeu, très bien. Mais, par contre, que ce soit une gamine de 12 ans, enfin,
voilà. Attends, donc, quand même, de l'inceste, entre frères et sœurs, je pense que si, en France, c'est interdit, hein.
Non, c'est pas interdit. Alors, si tu regarderas, c'est pas interdit du tout.
En tout cas, pour moi, c'est interdit. Enfin, je sais pas, enfin, frère, enfin, bon.
Ah, ce que t'as pas le droit, c'est épouser ta sœur, par contre, mais, l'inceste n'est pas interdit, c'est pas illégal.
Ah bon? Tu veux genre, ok, enfin bon, bref, j'ai pas envie d'en savoir plus, de toute façon, laisse tomber. Et, enfin, tu m'as complètement perdu. Et j'ai envie de dire, ce jeu-là, il est destiné à qui? À Emile Louis? Enfin, c'est quoi? Emile Louis édition 2015? Enfin, bon. Nintendo, là, ils sont y aller fort, quand même, maintenant. C'est un jeu, enfin, voilà, enfin, j'en perds mes mots.
Voilà, c'est juste un truc putassier. Enfin, d'un truc, tu vois, au départ, qui me faisait rire, parce que franchement, le coup, tu déshabilles le perso, tu lui fais des caresses et machin, et t'as des trucs... Enfin, franchement, je trouve ça hilarant, quoi. Mais par contre, quand j'ai vu que c'était une gamine, là, ça m'a fait beaucoup moins rire d'un seul coup. Mais enfin, bref.
Non, mais surtout que... Enfin, Nintendo, Fire Emblem, c'est une série où on est quand même habitué à avoir des personnages qui sont représentés de manière assez classe, style manga, et ils sont pas ils se baladent pas, justement, comme tu disais avant, où il y avait certains jeux japonais où ils mettaient des héroïnes en petites culottes, une armure ultra légère, moins il y a de bouts d'armure, plus l'armure est puissante, tu vois. c'est bizarre, tu vois, genre le tissu de l'armure, genre si c'est juste un soutif et un string, l'armure elle fera genre 99% de résistance à la magie.
Ça, c'est vraiment le truc qui m'insupporte dans la plupart des jeux actuels. Et j'ai rien contre les œuvres qui sont un peu sexy, érotiques. Par exemple, j'adore Catherine, l'érotisme, il y en a partout dans le jeu, voilà, c'est pas un souci, quoi. Je suis pas non plus là à dire le sexe c'est mal, machin. Non, c'est pas ça. Qu'il y ait du sexe, etc., si c'est traité de manière intelligente, pourquoi pas. Mais là, c'est justement, c'est tout sauf intelligent, c'est idiot. Voilà, c'est idiot et ça détruit complètement l'ambiance du jeu, je trouve, quoi.
Quand tu vois des personnages qui étaient faits comme Erika, par exemple, avec tellement de classe, que ça soit dans sa manière de penser, son comportement, comment elle était habillée et tout ça, et que là avec ce qu'ils nous proposent pour le prochain Fire Emblem, enfin, je veux dire, il y a un monde d'écart entre les deux. Fire Emblem, ça n'a jamais été une série qui était putassière à ce point-là. Et même elle était pas du tout putassière, parce que c'était justement, c'était, on disait souvent que dans le jeu vidéo il y avait pas des personnages qui étaient forts et tout. Bah c'est un Fire Emblem, certains épisodes où il y avait des personnages qui avaient un rôle quand même assez important en termes de scénario. C'était un personnage qui était pas là pour faire genre la caution féminine du truc. Ils avaient un rôle important, que ce soit en termes scénario, en termes de personnages dans les combats. Et puis là, quand tu vois que enfin Nintendo qui font ça, ça me déçoit un petit peu de leur part, quoi.
Ah écoute. Il faut bien qu'ils vendent des 3DS, hein. Maintenant qu'ils doivent tenir jusqu'à la sortie de la NX, voilà.
Ce coup-là, ils auraient mieux fait de sortir sur Wii U.
Mais là, pour le coup, ils sont vraiment lâchés sur ce Fire Emblem, hein. Aussi bien en termes de modèle économique, bien à chier, là, on te divise le jeu en trois parties, là.
Ah oui, mais attends. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui... Quand tu m'as parlé de cette histoire, je me suis renseigné un petit peu. Et donc, vous savez donc que tout ce qui aura trois histoires... Enfin, il y aura deux histoires différentes, plus la troisième en bonus... qui sera la version ultime, genre c'est comme les Pokémon rouge, bleu et puis la version jaune quoi qui arrive.
Oui, sauf que la version jaune est téléchargeable quoi.
Voilà, donc là en fait en gros la version noire, ce sera la version un peu plus corsée du jeu. Et dedans vous aurez, écoutez bien, hein, c'est ça qui m'a fait aussi rire. Il y aura un seul mec qui sera homosexuel et vous pourrez le pécho uniquement dans cette version-là. Et si vous prenez la version blanche, il sera un peu plus facile. Vous aurez une femme qui sera lesbienne et donc si vous voulez jouer vous marier avec une lesbienne, il faudra prendre absolument cette version-là parce qu'il y aura qu'une seule femme dans tout le monde de Fire Emblem qui sera lesbienne et il faudra la choper que dans cette version-là.
Mais en fait, c'est devenu un dating sim Fire Emblem. J'avais pas compris ça.
Et puis si vous prenez la troisième, donc l'extension qui regroupe les deux plus le scénario bonus, vous aurez le choix entre le personnage gay ou bien le personnage lesbienne, et puis vous aurez donc la possibilité d'avoir les deux dans le même jeu, mais il faudra choisir votre orientation avant de commencer le jeu, quoi.
C'est des objets, quoi, c'est-à-dire en gros, alors si tu veux jouer avec l'homo, tu l'auras dans cette version, si tu veux jouer avec la lesbienne, tu l'auras dans cette version. Les gens ne sont pas du tout des objets.
Dans Mass Effect, le mec, la première chose qu'il te dit, c'est « Salut, je suis homosexuel. » Ok, tu vois, c'est même pas toi qui a découvert le personnage et tout. Il te l'a dit direct. Mais bon, après, voilà, Mass Effect, c'est un jeu, on va dire, qui est mature, 18 plus sur la jaquette. Donc, à la limite, voilà, que ce soit un dating sim, tu peux faire ce que tu veux dans le jeu, tu dragues des gonzesses ou des mecs, enfin, voilà, ça c'est après ton choix. C'est le dating sim, quoi, on était habitué. Mais
c'est
là,
juste que la manière dont c'est décrit, c'est ridicule, quoi.
Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. C'est
les personnages homosexuels dans la plupart des jeux aujourd'hui, mais franchement, tu verrais un film avec ces persos, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est des caricatures, quoi. T'imagines, tu croises quelqu'un dans la rue, salut, je suis gay.
Oui.
Oui, d'accord, ok. Oui. Et sinon, je sais pas, tu as une personnalité, peut-être.
Voilà, c'est ça. Tu vois,
est-ce que t'as... Enfin, on peut discuter, non?
Okay, le truc, il a pas été amené de manière. Enfin, ça a été amené de manière trop artificielle, quoi.
C'est en fait, on définit le personnage par sa sexualité, quoi. C'est le perso gay, en fait. C'est-à-dire, c'est la caution gay du jeu, quoi. C'est les mecs, tu vois, ils se sont dit, ah putain, ça y est, on a mis un gay dans le jeu, les mecs. Il va falloir absolument qu'on le mette bien en avant, qu'on le martèle sur le plan marketing, tu vois. Enfin, moi, c'est cool qu'il y ait des gays, des lesbiennes. Enfin, je veux dire, ça élargit le spectre, quoi, j'ai envie de dire. Mais comme disait un certain George R. R. Martin, je me rappelle, un critique le complimentait... sur le fait que les femmes dans ces bouquins ressemblaient à autre chose que les femmes de la plupart des bouquins, il demandait, mais en fait, comment vous faites? Ben, George R. R. Martin a eu une réponse que je trouve absolument admirable, il a dit, ben, je considère les femmes comme des vrais gens. Et c'est pareil, tu vois, enfin, là, c'est exactement pareil. J'ai l'impression que quand ils écrivent un personnage homosexuel, ou lesbienne, ou bisexuel, ou que sais-je, les mecs l'écrivent comme si c'était un truc particulier, tu vois, ou enfin alors OK, lui, il faut vraiment une écriture différente. Alors je veux bien que effectivement l'homosexualité puisse apporter certaines problématiques, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Quand t'es homosexuel, tu peux être victime de certaines discriminations, etc. Mais c'est avant tout des vrais gens, quoi. Et il faut traiter en termes d'écriture, il faut les traiter comme des vrais gens et pas comme des trucs. Enfin, comme des objets, quoi, en fait.
C'est exactement ce que j'allais dire, quoi. Parce que là, tu vois, enfin, pour le cas de Nintendo, enfin, dans Fire Emblem, j'ai l'impression qu'ils ont placé un mec comme ça dans la version du jeu, tu vois. Ils ont dit, alors dans tout le pays de Fire Emblem qui va composer l'histoire, il y a un seul mec qui est gay, et dans cette version du jeu là, et si tu veux pécho un mec, bah, il faut que tu joues dans ce jeu-là, il faut que tu fasses la relation que avec ce type-là, tu pourras pas faire avec quelqu'un d'autre, et j'ai peur que y a pas de subtilité genre pour amener à la découverte de savoir qu'il est homosexuel et tout ça, parce que là ça va, j'ai l'impression qu'il va venir, il va te cracher au visage, et puis genre le mec il va avoir des comportements un peu on va dire clichés quoi, pour savoir qu'il est vraiment, que c'est vraiment ce type de personnage là et que ça a pas de fait de tout de manière habile, et c'est ça vraiment le problème dans le jeu vidéo, parce que je pense pas que la communauté homosexuelle dans les jeux vidéo aujourd'hui se reconnaisse que ce soit dans n'importe quel personnage qui a été fait quoi, enfin surtout le mec dans Mass Effect 3 j'ai l'impression que si moi j'aurais été homosexuel, je pense que ça, j'aurais pris ça limite comme une insulte quoi,
enfin bref. Voilà, bon, l'écriture, après, j'ai envie de dire l'écriture dans les jeux vidéo, malheureusement, parce que bon, là, on parle de ce cas spécifique, mais d'une manière générale, je veux dire, rares sont les jeux que je trouve bien écrits, hein, malheureusement.
Et pourtant, il y a quand même des exceptions.
Oui, il y a des exceptions. On en reparlera bon, ces jours.
On va dire 90% de, de la production, c'est pas trop ça, quoi. Je suis héros, je vais sauver le monde. C'est là, sauver le monde.
Voilà. Bon. Allez, bah, on va terminer avec un petit point Shenmue, mon cher ATH. Oui. Le point Shenmue. Faudrait qu'on fasse un générique, tu sais, le point Shenmue. ouais, non, parce que je crois qu'on va en faire souvent des points, là, sur ce truc, parce que...
Bah, moi, je veux bien faire un point Shenmue, enfin, je veux bien faire le générique si on atteint les 10 millions sur Kickstarter.
Alors, on va lancer un Kickstarter pour le point Shenmue, hein. On va faire un générique, on a besoin de votre argent, s'il vous plaît.
Ah non, moi, j'étais pas parti dans cette optique-là. Je voulais faire le point Shenmue si Suzuki attendait les 10 millions sur Kickstarter.
Non, mais t'es bête, ATH, faut qu'on en profite aussi un peu, là.
Non, mais par rapport à la déclaration.
Il y a trop d'argent déjà, monsieur Suzuki.
C'est par rapport à la déclaration qu'il avait faite, tu vois, c'était pour la transition, quoi, avec ce que t'allais dire.
Oui, oui, non, mais je vais en profiter pour reprendre mon argent aussi, tu vois. Laisse-moi gagner des sous, bordel, un peu, merde.
On n'est pas dans plan marketing.
Donc, Shenmue. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde merveilleux de Monsieur Suzuki? Donc, comment s'en douter, hein, évidemment, pour avoir l'expérience complète, ben, ce sera 10 millions de dollars minimum, quoi, on va dire, de ce que j'ai compris. Et surtout, apparemment, eh bien, c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire que, ben, Sony, comme c'est le programme third party, ben, ils ne s'occuperont que de l'édition du jeu sur PlayStation 4 et un peu de publicité. Et puis, c'est tout. Voilà. Et moi, c'est bien ce que je soupçonnais, c'est-à-dire que depuis le début, tout le monde dit oui, Sony va aligner les bistons matin, machin. Sauf que je suis désolé, moi, depuis le début, je vois que c'est le programme third party de Sony, et donc que, bah voilà, ça veut dire que l'essentiel du financement viendra des fans et d'investisseurs externes. Alors, je sais pas, peut-être que Sony, derrière, alignera des bistons. Moi, vu la polémique que ça crée, j'ai tendance à penser que non, mais enfin bref, voilà. Dans tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour ceux qui auraient encore un doute, si vous filez des sous, là, si ça se trouve, vous aurez pas le Shenmue que vous vouliez à la base, hein. Voilà. Et je vous invite à aller voir les stretch goals. Quand tu vois vraiment tout ce qu'ils doivent ajouter au fur et à mesure des paliers, tu te rends compte que, ben, ouais, c'est vraiment à partir de 10 millions que le jeu devient à peu près complet, quoi, en fait. Et c'est ce qu'il a dit, d'ailleurs, Suzuki, c'est-à-dire qu'à partir de 10 millions, ben, t'auras un open world, quoi.
Ouais, mais en plus ça, enfin, là, je commence à être de plus en plus méfiant vis-à-vis de Shenmue, parce que moi, même si le jeu est mauvais, et finalement que j'ai le fin mot de l'histoire, ça m'aurait, je m'en fous, ça serait limite, le truc est bouclé, c'est devenu une bouse, et puis au moins je sais ce qui s'est passé, et puis voilà, après je tourne la page définitivement. Mais là, en plus de ça, c'est le pire, c'est que Suzuki apparemment il a, c'est bon, Shenmue 3 est lancé, d'accord, mais lui il veut pas s'arrêter là, il veut faire Shenmue 4 et Shenmue 5 déjà, donc ok,
ouais, donc en gros on aura pas le fameux l'histoire.
Voilà, c'est ça. Donc maintenant, donc déjà là, moi, Shenmue 3, bah ça m'intéresse un petit peu moins, parce que
on sait tous, okay, que tu l'achèteras à la sortie, ATH, c'est bon.
Bah non, déjà j'attends de voir vraiment la gueule qui va avoir, quoi. C'est comme les précommandes, je vais pas précommander un truc dont je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je vais vraiment attendre de voir ce qui va être fait avec le jeu, et si à la fin s'il va s'arrêter à Shenmue 3 déjà, parce que s'il fait Shenmue 4 et Shenmue 5, je préfère même pas me lancer dans le projet, parce que voilà, le 3 peut-être qu'il est sorti, mais le 4 et le 5, rien de garanti, parce que avec toutes les déclarations qui a été faites, le manque de transparence de Suzuki et de son équipe de production, on sait pas qui fait quoi, d'où vient l'argent.
Moi, je pense pas que c'est un manque de transparence, je pense que pour le coup, le résultat, c'est que c'est pas transparent, mais je pense qu'ils sont juste incompétents, en fait. Enfin, franchement,
ouais,
j'ai,
mais...
c'est un Kickstarter fait par des branques, hein, sérieux, hein.
Mais attends,
c'est ce que je dis depuis le début. Moi, ce projet, il aurait pas marqué chez nous. Putain, je dirais, mais la vache, quoi, c'est fait par des amateurs, quoi.
T'imagines, au début, demander 2 millions de dollars. Et il aurait fait quoi avec cet argent-là, en fait, pour chez nous 3? Ah, il aurait fait un jeu en PowerPoint?
Non, mais il aurait fait un, mais ça, par contre, c'est ce qu'on disait, il y a deux podcasts, enfin, c'est que ça aurait été une expérience linéaire, c'est tout. C'est un jeu en ligne droite où t'aurais eu la fin de l'histoire. Et quelque part, moi, je pense que ça suffira à pas mal de fans. Mais le problème, c'est que là, du coup, comme on aura Shenmue 4 et 5... je veux dire, s'ils parlent déjà de Shenmue 4 et 5, c'est que t'auras pas le fameux de l'histoire dans le 3. Ou alors, je sais pas comment ils vont se démerder, mais... donc, ça veut dire que... En fait, tu sais pas comment ça va se terminer, quoi.
Non, mais c'est ça, c'est le projet, il part dans tous les sens. J'ai l'impression que Suzuki, ça y est, il revoit les choses en grand. Comme à l'époque, peut-être que, tu vois, à l'époque où il avait commencé Shenmue 1 et Shenmue 2, il avait eu les yeux plus gros que le ventre et finalement, il a mis Sega dans la merde.
Non, mais là, après, moi qui ai les yeux plus gros que le ventre, très bien, mais qu'il soit clair à ce sujet, quoi. Tu vois,
mais oui, mais il faut pas...
depuis le débat, là, le mec, c'est pas du tout clair, c'est-à-dire que... Moi, au départ, j'avais l'impression, c'était, voilà, on fait Shenmue 3, puis voilà, basta. Non, alors, si ça marche, on fera peut-être Shenmue 4 et 5, mais attends, mais ça veut dire que du coup, l'histoire s'arrête pas à la fin du 3?
Bah non.
Ouais,
bah, on sait pas, pour l'instant, on sait pas, parce qu'il a dit, il aimerait bien le faire, mais on sait pas finalement, il va faire ça, ou s'il va le finir dans le 3, enfin, il fait des déclarations, comme ça, puis ça, le mec, ça fait, j'ai un énorme respect pour Yu Suzuki, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière, pour tous les chefs-d'œuvre qu'il a pu faire, sauf que ça fait un petit moment quand même qu'il a pas fait de jeu vidéo, je me demande si c'est toujours comment ça marche, ça c'est le premier point, et le deuxième point, c'est que, voilà, comme je te disais, les yeux plus gros que le ventre, pourquoi? Parce que, il sait bien que, qu'on lui donne la chance de terminer son œuvre. Il faut pas qu'il se dise, bon, bah, voilà, je vais faire tant de villas, je vais faire un monde ouvert, aussi impressionnant que Witcher 3, voilà, on va pouvoir conduire des voitures comme dans GTA 5, il y aura même des vaisseaux spatiaux qui vont arriver, enfin, tu vois, il faut pas qu'il...
Ouais, enfin, pour le moment, il a rien dit de tout ça, enfin,
justement
ça le problème. Moi, je pense pas qu'il ait les yeux plus gros que le ventre, très sincèrement. C'est juste que comme il est transparent, on met sur ce qu'il dit à peu près tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, ça fait un Kickstarter où on comprend rien, quoi. Moi, franchement, je comprends pas ce qu'il veut, là, en fait, hein. Très sérieusement. Hein.
Moi, en tout cas, de mon point de vue, j'aurais bien voulu que Shenmue 3, ça soit la fin, et puis qu'on passe à autre chose. Ça fait 14 ans qu'on galère pour savoir ce qui se passe. Maintenant qu'on a enfin une date de sortie sur quelque chose, déjà, le jeu, je t'ai dit, j'attends vraiment de voir la tête qu'il va avoir, parce que les premières images du jeu, quand tu vois la gueule de Ryu, enfin, désolé, quoi, c'est quoi ce jeune prépubère là, qui est mal designé en plus. Mais donc voilà, enfin, Shenmue 3, un gros point d'interrogation pour moi là-dessus, et j'attends vraiment, vraiment, vraiment de voir ce qui va se passer, et j'espère que ça sera quelque chose qui sera vraiment fait dans des bonnes conditions, parce que là, ça va, c'est quelque chose qui on en parlait assez souvent, que les jeux sur Kickstarter ils étaient plus financés si c'était pas un inconnu. Bah là, franchement, si c'est un gros comme lui qui fait ça et qui se viande, et bah là il peut vraiment mettre un coup de frein à Kickstarter, mais pour tous les autres, quoi. Enfin, un autre coup pour toutes les productions merdiques qui s'est passé sur Kickstarter, parce qu'il y a eu beaucoup de cas où les jeux finalement étaient décevants sur Kickstarter. Et maintenant j'ai l'impression que voilà, pour n'importe quel projet, Kickstarter finalement c'est la machine à rêve, et au final on est toujours déçu. Et je pense que Shenmue 3, quoi qu'il arrive.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, hein, mais
non, mais c'est vrai qu'on a été quand même assez déçu sur Kickstarter.
Non, enfin moi personnellement sur les projets que j'ai financés, non. Ça, je suis pas du tout d'accord avec toi, par contre. C'est-à-dire
c'est
la majorité des projets que j'ai financés pour le moment, il y a des projets qui m'ont claqué entre les doigts. Hein. Broken Edge, franchement, au final, c'est pas terrible. Il y a des jeux qui sont pas terminés. Par contre, la majorité des jeux que j'ai financés pour le moment, moi, mon bilan, il est positif.
Oui, mais il y a quand même des jeux. T'as eu quand même des jeux qui ne sont pas sortis.
Mais ça fait partie du truc.
Ouais, mais bon, après, c'est voilà, c'est...
Non, mais voilà, enfin... On parle
de Shenmue 3, quoi.
Oui,
il y a des gens qui sont...
Oui, non, mais je comprends bien. Moi, de toute façon, depuis le début, je vous dis que ça pue la merde, ce projet. Donc voilà, c'est l'expérience qui parle, justement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je fais mon bilan sur Kickstarter, je suis pas déçu. C'est juste que je tenais à donner mon avis de personne qui a quand même financé un certain nombre de projets. Alors oui, il y a des projets qui m'ont claqué entre les doigts. Mais par contre, la majorité des projets, en ce qui me concerne, hein, peut-être que des gens ont eu moins de chance que moi, ou enfin voilà, moi sur la quarantaine, enfin ça vire de plus en plus à la cinquantaine d'ailleurs, mais enfin bref, de jeux que j'ai financés, la majorité ont donné des bons jeux, voire des excellents jeux comme Pillars of Eternity. Voilà. Enfin bref, dans tous les cas, juste un petit rappel par rapport à Kickstarter, parce que Herman m'a posé une question dans les commentaires à laquelle je vais répondre ici, parce que le fait qu'il me pose cette question-là, ça me pousse à penser que je suis pas suffisamment clair vis-à-vis de comment ça se passe sur Kickstarter. Quand vous financez un jeu sur Kickstarter, comment ça se passe si jamais le projet n'aboutit pas? Est-ce qu'on est remboursé, par exemple? Non, vous n'êtes pas remboursé. Enfin, ça dépend de l'humeur du mec que vous avez financé. Ou plutôt, ça dépend de son compte en banque. C'est-à-dire que, vous imaginez bien que si un projet s'est planté, eh bien, c'est que le mec a dépensé tout l'argent que vous lui avez donné. Donc, a priori, comme ça, comment tu veux te faire rembourser? A fortiori, si le mec est aux États-Unis. Alors, il faut savoir que... sur les projets aux États-Unis, il y a eu des mecs qui sont pris des procès au cul, hein. Il faut le savoir, ça. Mais si t'habites pas aux États-Unis, déjà, bon, et que toi t'es en France, par exemple, ben voilà, c'est foutu. Et puis même, je veux dire, 99% des gens, je veux dire, tu vas pas te faire chier pour 30 euros, quoi. On est tous bien d'accord. Tu vas pas engager un avocat pour, qui va te coûter une fortune, là, pour 30 euros. Qu'on soit clair. Donc, pour moi, concrètement, quand tu finances un projet sur Kickstarter, si jamais Kickstarter se plante, tu as zéro. Voilà. Vous ne croyez pas ce que vous dit Kickstarter sur les conditions où on dit oui, si jamais les récompenses ne sont pas délivrées, machin, il y a obligation de remboursement, mais couille, ouais. C'est-à-dire que si jamais un projet se plante, vous n'êtes pas remboursé. Donc quand je vois des mecs sur Shenmue qui filent 300-500 euros... Voilà, je veux dire, là, le Suzuki va le dépenser, votre pognon, hein. Il pourra pas vous rembourser après, hein. Même s'il voulait, il pourra pas, hein. Parce qu'il aura dépensé tout le pognon. Donc, enfin voilà. Partez du principe, c'est pour ça que je le répète à chaque fois, mais visiblement je suis pas assez clair, mais partez du principe que vous jetez votre argent par la fenêtre. Ça veut dire vous donnez 500 euros, là, très bien, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je trouve ça totalement inconscient. Mais vous faites ce que vous voulez.
C'est le mec qui balance une PS4 par la fenêtre. Hein.
Mais après tout, voilà, c'est votre choix. Mais moi, je porte pas jugement là-dessus. Je trouve, personnellement, je trouve que c'est de la folie. Mais après tout, c'est votre argent. Vous êtes adulte. Ça, par contre, je suis totalement ouvert là-dessus. Vous faites ce que vous voulez, votre argent. Mais gardez bien à l'esprit que des projets qui se sont déjà plantés sur Kickstarter, j'en ai un certain nombre dans mon catalogue, on va dire, de jeux que j'ai financés, et que même pas, tu vois, qui n'ont pas abouti, hein. Il y a des jeux qui peuvent se montrer très décevants, par exemple. Et ça, Shenmue, c'est typiquement le projet qui, je pense, aboutira, sauf si Suzuki veut définitivement griller sa carrière, ce qui m'étonnerait quand même, mais
par contre... Elle a déjà grillé sa carrière.
Oui, non, mais si tu veux, je pense que lui, son projet, en fait, c'est de capitaliser sur Shenmue pour relancer des trucs derrière, enfin voilà.
Oui, c'est pour ça que je disais qu'il était déjà grillé, donc maintenant, il a plus rien à perdre.
Oui, mais justement, c'est ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que son intérêt, c'est pas de foirer son projet. On est bien d'accord.
Oui, ben, c'est sûr.
Et qu'il fera tout pour que son projet aboutisse. Enfin, je veux dire, s'il est là aujourd'hui, c'est justement parce qu'il est prêt à tout, pour le coup, pour que ça arrive. Mais par contre, c'est typiquement le projet qui peut se montrer très décevant quand il va sortir. Pourquoi? Parce que comme il n'est pas transparent, qu'il n'est pas exact sur ce qu'il veut, quoi, j'ai envie de dire, qu'il dit pas précisément ce qu'il veut, ben, pour moi, c'est une énorme boîte à fantasmes, en fait, ce Kickstarter. Et quand on aura le jeu concret fini, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes qui vont prendre cher, quoi. Alors que moi, je suis convaincu que ce sera un petit jeu, tu vois, qui sera sans doute... peut-être très réussi au niveau de la narration, etc., mais qui à aucun moment n'égalera en termes de grandeur, si tu veux, le résultat qu'il y a eu à l'époque, quoi. Parce que à l'époque, ouais, bah quand même, il y avait énormément de pognon derrière, etc., il y avait de la recherche et développement, Bon, on dirait une partie de travail qui a déjà été fait, mais franchement, j'ai beaucoup de mal à croire qu'avec un budget resserré, il va y arriver. Et ce d'autant plus quand je vois la manière dont ils gèrent leur Kickstarter. Là, je me dis bon, ça ne donne pas confiance, quoi, si tu veux, en fait, en ce projet-là.
Non, mais à l'époque, le jeu était très clairement en avance sur son époque. Au moment où Shenmue est sorti, c'était un jeu qui avait quand même bien 3-4 ans d'avance sur tout le reste de la production qui était faite. Après, je voulais répondre aussi donc à Ben et à Herman, bon, c'est parce qu'ils parlaient de Shenmue 3 dans le podcast précédent, et disaient donc que Sony a publié un démenti, ça c'est Ben qui dit ça, qui a publié un démenti où il disait qu'il n'allait pas financer du tout Shenmue 3.
Et Herman plus tard par Suzuki, hein.
Voilà, c'est ça. Et Herman qui nous disait que voilà, que Shenmue 3 ne serait pas la fin de la saga Shenmue. Et donc ça, je voulais juste leur dire que bah on a su ça après avoir enregistré le podcast, hein, parce que on enregistre le podcast et les déclarations sont faites.
Oui, oui, oui.
Ah non, mais voilà, c'était juste pour clarifier la situation. Donc voilà.
Voilà, bon, vous l'aurez compris, c'est un projet qui évolue, on apprend les choses au fur et à mesure, on sera peut-être amené à revenir dessus, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un Kickstarter qui est assez mal géré, et on voit bien que c'est les fans qui portent le truc, en fait, hein, parce que...
Mais moi j'aimerais tellement pas qu'il se plante, quoi, en fait, parce que, si je veux, c'est tellement une saga qui est chère à moi.
Ah, mais qu'on soit clair, personne ne souhaite qu'il se plante, hein, mais je pense que même... que parmi les plus violents détracteurs qu'il peut y avoir sur Internet par rapport au projet, donc personne ne veut vraiment qu'il se plante. C'est juste que de la manière dont c'est fait, ça donne pas confiance. Et les gens ont raison, je trouve, quelque part.
Ah si, parce qu'en fait, j'ai entendu des gens qui disaient que si Shenmue 3 devait se faire, c'était bien avant c'était, je crois, c'était dans la case rétro qui disait ça. Et ils ont fait un podcast sur Shenmue 1 et 2 et ils disaient que s'il y avait un chroniqueur qui disait si Shenmue 3 devait sortir un jour, et ça, il l'a fait genre peut-être 2-3 mois avant l'annonce de Shenmue 3. Et s'il devait sortir un jour, bah j'espère qu'il ne sera jamais fait sur Kickstarter, un truc comme ça, qu'il ne sera jamais fait, quoi. Il veut pas que, en gros, que Shenmue 3 arrive.
Oui, non, mais ça, c'est aussi par rapport au fait que il y a des gens qui pensent que Kickstarter est nuisible, ce que je peux parfaitement comprendre, et qu'ils n'aiment pas.
Il parlait pas de Kickstarter forcément, mais il voulait pas genre que voilà qui est Shenmue 3. Il voulait pas en gros qu'il y ait une Shenmue 3, si je me rappelle bien de ce qu'il avait dit. Donc moi, j'espère vraiment que ça va avancer dans le bon sens. Et si possible que ça soit qu'il revienne sur sa déclaration et qu'il mette la fin à l'histoire, parce que j'ai pas envie que Shenmue 3 il sorte et puis finalement Shenmue 4 il sort pas et puis on a jamais et ça fasse une autre histoire qui s'étale sur des années encore. Donc c'est pour ça que moi je veux vraiment que ça soit la fin, pour que ça après on en ait fini avec ce jeu, parce qu'il faut au bout d'un moment mettre un point final à l'histoire, et on peut pas laisser un truc traîner comme ça sur encore des années, parce que là le Shenmue 3 est prévu pour décembre 2017 sur le papier en tout cas, mais bah, rien que nous dit qu'il va pas sortir en 2018 ou même 2019. Shenmue 4 il sortira quand? Moi ça se trouve à ce moment-là je jouerai plus aux jeux vidéo, quoi, j'aurai plus le temps, les gars. Enfin tu vois, j'ai envie de dire, ça se trouve je serai mort, enfin je peux pas savoir ce qui sera arrivé d'ici là, mais c'est sûr que la Arlésienne va continuer encore si on va dans ce sens-là, quoi.
Enfin bref, bon, je te propose qu'on s'arrête là pour cette semaine, mon cher ATH.
Ouais.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous préviens, je ne sais toujours pas combien on sera la semaine prochaine. Il n'y aura pas Morden, ça c'est sûr.
Ça sera un monologue.
Monsieur travaille les week-ends, malheureusement pour lui. Donc voilà, à la semaine prochaine pour nos podcasts de l'été. Salut à tous et bonne fin d'année scolaire pour tous les petits étudiants là qui ont fait leurs examens, tout ça.
J'espère que vous allez obtenir votre bac.
Voilà, bon courage. Allez, ciao.
Bye bye.